Autant avant, il y avait le banania, le bamboula et tout ce qu'il y a, la stigmatisation du maghrébin, le rejet de plus en plus important s'enracine dans ces années-là.
Oui, on peut presque le suivre au jour le jour. C'est-à-dire que vous avez cette progression des années 20 à 26 où va commencer à se fixer ce discours sur, je dis, les phrases dans le roman noir à l'époque, ce n'est plus le boulmiche et le bougnoulmiche. C'est de voir le double jeu de mots de cette invasion qu'il y a, où ces textes sur qui tue, c'est le Sidi qui tue avec son couteau qui nous attend à l'angle de la rue. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà, vous commencez à avoir les thèses de Moko sur les indésirables en France, vous commencez à avoir des bouquins qui sont sur 3 millions d'étrangers en France, sur les métèques, tous ces mots sont les vocabulaires de l'époque. Ce que vous retrouvez dans Je suis partout, dans l'Action française, dans Gringoire, dans Candide, dans l'Ami du peuple de Coty, où on nous raconte que Paris est envahi par des hordes de peuples de couleurs qui vont venir violer nos femmes en peau de léopard, qui étrangleront nos enfants, enfin, qui viendraient envahir Paris, comme on disait à l'époque. Et donc tout ça monte progressivement, dans tous ces années 20, en toile de fond d'une inquiétude post-Première Guerre mondiale, d'une société qui s'enfonce aussi progressivement dans une crise qui va arriver à la fin des années 20. Et donc, tout ça est assez prégnant et il faut le mesurer, c'est que vont se construire à ce moment-là tous les stéréotypes d'exclusion, parce que plus de Maghrébins, par exemple, arrivent en France, plus la construction d'un rejet de cette population migrante sur le sol métropolitain va commencer à prendre forme. Donc vous avez tout ce contexte de pression et qui va pratiquement trouver son apogée à la fin des années 20, au moment où justement on glorifie dans Paris avec une humiliation ultime, totale, le centenaire de la conquête de l'Algérie en 1930. C'est l'une des plus grandes humiliations qu'on ait pu faire à l'Algérie. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement commémoré la présence de la France, on a commémoré une défaite, on a commémoré une humiliation et on le fait avec faste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut imaginer ce contexte. D'un côté, vous avez cette pression dans la ville, ce rejet xénophobe. De l'autre côté, vous avez cette humiliation totale qu'est 1930, qu'est la commémoration du centenaire de l'Algérie. Et vous aviez ici la grande mosquée, vous avez tous les bistrots arabes en Paris. Donc, faut quand même imaginer que dans cette ville, en permanence, vous avez ce rythme entre regard sur l'autre et ouverture à l'autre, et en même temps oppression coloniale, et en permanence on lui renvoie à cette image d'homme humilié, d'homme dominé. Et ça, c'est ce contexte qui fait qu'en 1930, quasi l'image du maghrébin non intégrable, indésirable, rejeté et quasi fixé. Et en même temps, je le dis bien, c'est tout le paradoxe de Paris, c'est la ville de la liberté. C'est bien plus humiliant à Alger. Voilà. Essayons d'imaginer un peu cette contradiction formelle que symbolise Paris à ce moment-là. C'est tout ça. Et je pense que l'emblème de la Grande Mosquée, pour ça, est assez, assez emblématique. C'est qu'on est à la fois dans un lieu aujourd'hui magique, regardez, on est à l'intérieur de ces jardins, on est dans un bout quelque part du Maghreb, d'Afrique du Nord ou de l'Orient. Donc en même temps, cette ville peut construire ce lieu, et en même temps, cette ville peut penser le rapport à l'autre d'une manière aussi excluante, autant inscrite dans le rejet. Et c'est tout ce paradoxe-là qui fait notre relation extrêmement ambiguë encore aujourd'hui aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, issus de cette histoire.